Voilà, nous avons le plaisir donc de venir à votre rencontre ce soir à Troyes. À ma droite, Catherine Valenti, qui est avocate au barreau de Lyon. Pierre Lamotte, donc à ma droite aussi, psychiatre et médecin légiste. Et pour ma part, Marc Gaucheran, modeste philosophe, donc non spécialiste évidemment de la question. Néanmoins intervenant depuis de nombreuses années donc, au Collège supérieur et pour cela, en quelque sorte, mandaté comme modérateur de la soirée. Voilà. Alors, la règle du jeu est assez simple lors de ces conférences à Troyes, une sorte de table ronde. Donc, nous introduisons donc, l'intervention, la soirée, chacun à notre tour, par une intervention d'un quart d'heure environ. Ensuite, pour éclairer peut-être certaines questions entre nous, eh bien, nous aurons un dialogue donc, à trois. Puisque au fond, eh bien, nous sommes de provenance bien différente en termes de compétences, vous l'avez vu. Et puis, bien entendu, rapidement ensuite, eh bien, nous vous donnerons la parole en termes d'échanges, de questions, pour que nous puissions travailler ensemble et évoquer cette question de l'adoption ensemble. Alors, quelques mots de mon côté sur cette question de l'adoption en guise d'introduction. Lorsque le sujet a été choisi au printemps dernier, donc le contexte n'était pas exactement celui d'aujourd'hui, en particulier en termes de projet de loi. Certes, Jean-Noël Dumont, qui a choisi ces sujets, n'ignorait pas le programme du candidat Hollande, mais la loi du mariage pour tous n'était pas encore sur les rails. Avant cette loi, bien entendu, de nombreuses questions se posaient déjà à propos de l'adoption, des questions de tous ordres, juridiques, sociales, éducatives, psychologiques, etc. Et ces questions, nous y viendrons ce soir, bien entendu. Nous évoquions tout à l'heure, pendant les quelques minutes qui nous ont permis de préparer ensemble cette soirée, la question, par exemple, de l'internationalisation de l'adoption, puisque, effectivement, il y a très peu d'enfants à adopter en France, et donc des affaires qui ont défrayé la chronique, comme l'Arche de Zoé au Tchad, donc font partie de questions sur lesquelles on pourra revenir, mais il y en a évidemment bien d'autres. Simplement, avec cette loi, même si ces questions sont toujours d'actualité, eh bien, le thème en tant que tel de l'adoption se révèle, si vous voulez, sous un autre jour. On peut parler en quelque sorte, non pas que le projet de loi procède à ce bouleversement, mais en tous les cas que ce projet de loi eh bien, est un révélateur d'une évolution de la pratique de l'adoption, du thème de l'adoption, de la conception de l'adoption. Je voudrais donc commencer par ce que j'évoquerai en termes de bouleversement. Bouleversement ou évolution de l'adoption comme substitut, donc parental, à ce que j'appellerais l'adoption élective. Je pars d'un constat assez simple, assez évident, selon lequel l'adoption a toujours existé pour remédier à la situation donc de l'orphelin. De l'enfant donc, qui manque de parents, a toujours existé, quelles que soient en l'occurrence les sociétés, et évidemment existe toujours. J'ai passé plusieurs semaines cet été au Congo, dans la République démocratique du Congo, où un pays qui est bouleversé par une très longue guerre, et puis par ailleurs une situation sanitaire catastrophique. Et donc on ne compte pas les enfants qui, pour toutes sortes de raisons, vivent avec leurs oncles, leurs tantes, et donc sont très naturellement, sans même que cela d'ailleurs fasse l'objet d'une quelconque procédure juridique, eh bien, adopté pour tout simplement pouvoir bénéficier de parents, des enfants chanceux de ce point de vue-là, puisque ceux qui ne peuvent pas en quelque sorte bénéficier de cet accueil de la part de parents proches ou d'ailleurs moins proches, de voisins parfois, etc., eh bien, se retrouvent dans la rue et vont grossir le contingent des enfants des rues. Donc on est là, si vous voulez, donc dans une pratique en quelque sorte extrêmement ancienne qui consiste à, au fond, permettre à des enfants qui sinon se retrouveraient seuls et éventuellement dans la rue, dans ces situations catastrophiques et dramatiques que sont celles des enfants des rues, eh bien, de permettre à ces enfants tout simplement de vivre dans une famille. Cette situation donc traditionnelle renvoie ou se réfère à l'adage dont on a beaucoup parlé ces derniers mois à propos de l'actualité de la loi du mariage pour tous. Donc l'adage qui est bien ancien, l'adoption imite la nature, qui remonte à Justinien. Cette conception, je dirais, de l'adoption ou cette pratique traditionnelle de l'adoption consiste à donner une famille à un enfant. Un enfant qui, sinon, eh bien, se retrouverait complètement seul. Et c'est bien une situation, je l'évoquais, qui existe elle aussi. Je parlais de bouleversement parce que, effectivement, il me semble que l'adoption change, en tous les cas dans les pays occidentaux, ou a changé depuis un certain temps. On pourra y revenir tout à l'heure à travers les questions, éventuellement. Du fait de l'évolution de la parentalité. Nous sommes passés, au cours de ces dernières décennies, de la parenté biologique, à la parentalité sociale en termes de pratique sociale, puisque, en l'occurrence, eh bien, la parentalité a éclaté en termes de modèle. La parentalité traditionnelle ou la parenté biologique, donc selon laquelle, eh bien, au fond, les parents sont le père et la mère pour un enfant. Cette parenté a évolué, ou plutôt, en tous les cas, s'est démultiplié à travers une parentalité qui peut être aujourd'hui celle de l'homoparentalité. Nous y reviendrons certainement, de la monoparentalité, etc., etc. Or, donc, cette évolution de la parentalité, qu'on appelle aujourd'hui parentalité sociale, tend à une parentalité choisie, construite, par rapport à une parenté qui, traditionnellement, était plutôt une parenté subie, biologique, si vous voulez. On a des enfants qu'on n'a d'ailleurs pas forcément attendus, en tous les cas choisis, etc. Eh bien, change la figure de la parenté. Et par ailleurs, du point de vue de l'adoption, on est à ce moment-là non plus dans la démarche qui consiste à donner une famille à un enfant, mais plutôt à donner un enfant à une famille. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, eh bien, un couple, quel qu'il soit, voire un individu, quel qu'il soit, en souhait d'enfant, en projet d'enfant, en besoin d'enfant, eh bien, va en l'occurrence souhaiter, désirer et opérer des démarches pour, en quelque sorte, obtenir un enfant. De ce point de vue-là, les couples stériles, en quelque sorte, eh bien, peuvent accéder à la parenté à travers l'adoption, ne sont finalement qu'une dimension, ne représentent qu'une dimension de l'adoption. Et dans aujourd'hui ce thème de l'adoption, il nous faut l'envisager bien au-delà de cette, de la démarche de couple stérile consistant en quelque sorte pouvoir obtenir en quelque sorte un enfant qu'ils ne peuvent pas avoir par voie naturelle. Je m'arrête quelques instants sur ce point parce que il est aujourd'hui très difficile d'évoquer cette question de l'adoption en dehors de l'actualité, et en particulier en dehors de l'actualité du mariage pour tous, bien entendu, en dehors donc de ce déplacement de l'adoption, d'une adoption traditionnelle vers ce qu'on pourrait appeler une adoption élective, qui elle-même, eh bien, s'inscrit dans l'évolution de la parentalité, d'une parenté biologique, la plus, je dirais, la plus courante, la plus générale, vers ce qu'on pourrait appeler donc une parentalité éclatée. Et donc, ce soir, nous allons être conduits à parler d'un côté très certainement donc de la démarche, par exemple, de couple voulant adopter un enfant, mais aussi par ailleurs de cette thématique générale de l'adoption d'un enfant par toute forme de couple et éventuellement toute forme d'individu en projet d'enfant. Cette évolution donc de la parentalité n'est pas nouvelle, c'est évident que ça n'est pas le projet de loi du mariage pour tous qui crée en quelque sorte cette évolution. Elle comporte de très nombreuses étapes en un demi-siècle, c'est-à-dire qu'elle remonte au fond à la révolution des mœurs. Mon hypothèse en tous les cas, c'est que l'adoption de parentalité substitutive devient le modèle de la parentalité. C'est-à-dire qu'au fond, l'adoption était en quelque sorte, jusqu'à il y a un certain temps, une parentalité substitutive, et elle est devenue, depuis quelques années, eh bien, peut-être le modèle de la parentalité, peut-être le modèle de la parentalité pour l'avenir. Il y a deux ou trois ans, proposé un article dans la lettre du Collège supérieur où je traitais, donc un article qui avait pour titre « La filiation en miettes », où je traitais toutes ces questions qui aujourd'hui sont vraiment d'actualité avec le projet de loi. Et je me permets de reprendre quelques lignes de cet article à propos que j'intitulais justement « La parentalité élective ». Voilà, donc je lis quelques lignes de cet article. Avec l'effacement de la procréation au profit de l'ectogenèse, la parentalité élective remplacera la parentalité charnelle ou biologique. Elle existe déjà dans le désir d'enfant reconnu. L'absence d'enfant chez les couples stériles, la femme de 40 ans ou plus, les couples homosexuels, trois petits points de suspension, s'expriment sur le mode de la souffrance, insupportable dans une société compassionnelle. On l'entend et on remédie, on entend cette souffrance et on remédie pour la faire cesser. Selon le mécanisme de prolifération des droits de l'homme, tout besoin ou désir habillable en droit s'avère légitime, le droit à l'enfant pour tout individu, pas encore inscrit comme tel, l'est dans les mentalités. Ce qui est déjà beaucoup. Pas besoin de cette inscription d'ailleurs, tellement on vend à la découpe en Europe même. Mère porteuse, adoption pour les homosexuels, donc cela existe déjà dans plusieurs pays européens. Au bout, le triomphe de l'adoption. Réservée aux couples stériles, elle répondra à tous les projets aussi variables que les individus. Avoir un enfant reviendra à l'adopter, qui que je sois. Référentielle, elle remplacera la parenté biologique avec l'avantage décisif du choix. Pour l'enfant, s'établira un lien avec l'adoptant, mais que reconnaîtra-t-il ? Un projet, un désir, une tutelle, bref, une relation élective. Cette extension du domaine de l'élection a déjà commencé avec l'éclatement de la famille traditionnelle. Dans la famille recomposée, les enfants sont en quelque sorte autant d'adoptés. Ils le sont en fait, et nous le verrons tout à l'heure sur le plan juridique, ils le sont parfois en droit avec la demande d'adoption de la part du parent tiers. Alors, après, cette affirmation qui peut vous sembler, je dirais, un peu brutale, hein, selon laquelle, au fond, peut-être, c'est mon hypothèse, peut-être allons-nous passer, du modèle traditionnel de la parenté biologique vers ce modèle, du fait de la prolifération de la parentalité vers ce modèle donc de l'adoption qui deviendrait peut-être le premier modèle, c'est-à-dire qui correspondant, si vous voulez, à la demande d'enfant de la part de tout couple, voire de tout individu, eh bien, je voudrais évoquer trois questions. Je voudrais poser trois questions qui, me semble-t-il, eh bien, au moins trois, il y en aurait certainement d'autres. Voilà. Que pose justement cette substitution, cette évolution donc du modèle de la parentalité. Première question, celle de l'acquisition de l'enfant, puisque effectivement, si l'adoption donc devient en quelque sorte le modèle référentiel de la parentalité, se pose la question de l'acquisition de l'enfant. Et donc, si vous voulez, donc du droit de l'enfant, du droit à l'enfant. C'est un thème, je dirais, qui n'a rien de nouveau, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, ces dernières semaines, dans le cadre en particulier, dans les débats qui ont eu lieu autour du projet de loi du mariage pour tous, c'est-à-dire, si vous voulez, cette question de savoir si, au fond, il y a un droit à l'enfant par rapport, évidemment, au droit de l'enfant. Reste que, je l'évoquais tout à l'heure dans le court passage que je vous ai lu de l'article, la filiation en miettes, la dynamique de la souffrance et de la compassion est très forte dans nos sociétés. Et elle est génératrice de droits. Et en l'occurrence, eh bien, même si pour l'instant, si vous voulez, donc, ce droit à l'enfant n'est pas inscrit dans le droit, et donc cela sera sans doute difficile, si vous voulez, parce qu'un sujet de droit peut difficilement devenir un objet de droit, il est inscrit dans les mentalités. Il est inscrit dans les mentalités. Voilà. Et donc comment ceci pourra-t-il se résoudre sur le plan du droit, je me le demande. Et cette question, je la poserai volontiers donc, à Catherine Valenti. Mais dans les mentalités, très clairement, aujourd'hui, ce droit à l'enfant, en quelque sorte, même s'il ne s'exprime pas comme cela, eh bien, fait partie, en quelque sorte, des demandes, des désirs, etc. Pour étayer cette question, je fais référence à un juriste, le juriste suisse Jean Zermatten, qui est président du comité des droits de l'enfant de l'ONU à Genève, et qui évoque donc là, dans un petit article que j'ai sous les yeux, l'intérêt supérieur de l'enfant. On pourra peut-être y revenir tout à l'heure, parce que c'est une thématique juridique importante dans cette question de l'adoption. Je lis toujours à propos de ce droit à l'enfant, par rapport au droit de l'enfant, un très court passage de son article. Je cite « Il est important de rappeler qu'il n'y a pas de droit à l'enfant. Je constate que certains parents considèrent qu'ils ont le droit à un enfant, droit qui les autoriserait à aller en chercher un coûte que coûte et dans n'importe quel endroit du monde. Or, il est souvent dans l'intérêt de l'enfant de pouvoir rester dans son pays et dans l'intérêt du pays de ne pas se déposséder de la richesse que constituent ses enfants. » Voilà. Donc là, on a, si vous voulez, un rapide aperçu qui consiste effectivement à retourner une mentalité qui, nous semble en quelque sorte très légitime du point de vue de la mentalité. C'est-à-dire, on ne voit pas pourquoi est-ce qu'effectivement des parents ne pourraient pas en quelque sorte avoir des enfants à partir du moment où ils en ont le souhait, le désir, etc. Mais on voit bien comment est-ce qu'ici, donc Jean Zermatten eh bien, rappelle qu'il y a aussi un intérêt supérieur de l'enfant qui peut-être très bien a plus intérêt à grandir dans son pays et des pays eux-mêmes qui ont peut-être plus intérêt, si vous voulez, à ne pas se déposséder de la richesse que constituent donc les enfants de leur pays. Voilà. Je poursuis. Deuxième question maintenant. Concernant la contingence de la filiation, là aussi, c'est une question qui est beaucoup débattue à propos du projet de loi du mariage pour tous. Voilà. Tous les moyens que l'on se donne, si vous voulez, pour, en l'occurrence, obtenir des enfants, les moyens en particulier procréatifs, PMA, GPA, etc., les moyens juridiques, les moyens psychologiques, etc., eh bien, ne font pas forcément une raison d'être pour les enfants eux-mêmes. La filiation issue de la parentalité élective ne risque-t-elle pas, si vous voulez, de présenter pour l'enfant un déficit de sens et d'être ? Je ne parle pas ici, très clairement, je ne parle pas donc des enfants adoptés par des couples, Mais en l'occurrence, on le voit bien de ce modèle adoptif qui, de même en quelque sorte que la parentalité tend en quelque sorte à proliférer, ce modèle adoptif qui a toute chance de proliférer à travers la PMA, la GPA, etc. etc. Et donc, dans ce cadre-là, quel va être, le repérage de la filiation? Qu'est-ce qui va assurer donc à l'enfant son identité à travers une cascade éventuellement d'intervenants dans le cadre de la procréation? De même que tout à l'heure, j'évoquais, je faisais référence à un juriste, je ferai référence ici à des débats très soutenus qui ont eu lieu, qui ont été rapportés en particulier dans Le Monde. J'ai 4 articles sous les yeux. Ce sont des articles de femmes, toutes chercheuses, en particulier à l'École des hautes études. Je pense à Danielle Hervieux-Léger, Irène Théry, à Sylvia Nagasinski et à Nathalie Henich, des articles de fond qui ont fait l'objet de débats approfondis. D'ailleurs, ces articles renvoyant les uns aux autres ces dernières semaines dans Le Monde. Je voudrais citer rapidement, justement, à propos de cette question, d'identité, de sens de la filiation, 2 courts passages de ces articles. Le premier, de Sylviane Agazinski, philosophe qui a enseigné à l'École des hautes études de sciences sociales, et qui a beaucoup travaillé sur la différence sexuelle, etc. Voilà. On connaît aujourd'hui, dit-elle, les ravages que produit souvent sur les enfants l'organisation délibérée du secret maintenu autour de la personne de leur géniteur, même lorsqu'un père légal existe et qu'il a joué pleinement son rôle. Je poursuis. Les donneurs de sperme et les donneuses d'ovocytes sont d'abord des êtres humains. On dit qu'ils donnent des cellules à un couple, alors qu'ils contribuent à donner la vie à un enfant, que celui-ci le saura un jour et demandera des comptes. Non pas qu'il aura souffert dans son enfance, mais parce que, en tant que personne lui-même, il voudra savoir de quelle personne il est issu et quelle est son histoire humaine. Voilà. Donc là, on a bien cette évocation, de la cascade éventuelle d'intervenants dans le cadre, de la procréation. Ce modèle référentiel de l'adoption est susceptible de susciter. Je poursuis par aussi un court passage de Nathalie Henich, qui, elle, est sociologue, directrice de recherche au CNRS. Alors, autoriser le mariage homosexuel, c'est ouvrir automatiquement le droit à l'adoption pour les couples homosexuels. La question qui doit se poser alors n'est plus celle des droits des adultes, mais du devoir envers les enfants. Et précisément, quel sera leur état civil ? Auront-ils accès à l'identité de leur géniteur ? Leur propre identité sera-t-elle inscrite dans la différence des sexes qui a présidé à leur engendrement ? Ou bien y aura-t-il déni de cette réalité originaire ? Sachant l'importance des troubles, parfois psychotiques, liés au secret ou au déni de l'origine, il serait irresponsable de s'engager dans une ouverture du mariage, donc de la filiation, au couple du même sexe, sans réponse claire à ces questions. Principe de précaution oblige. Et ne parlons pas ici des problèmes posés par la procréation médicalement assistée, PMA, ou la gestation pour autrui, donc GPA, qui ne manqueront pas d'être exigés, toujours au nom de l'égalité. Voilà. Donc cette deuxième question portant, sur la contingence de la filiation, du problème de l'identité, en l'occurrence, et de l'origine, de ces enfants et de ces humains, de ces futurs adultes aussi, est bien posée ici, me semble-t-il, par ces 2 sociologues. Et c'est une question sur laquelle on pourra revenir en particulier tout à l'heure, une question que je poserai volontiers à Pierre Lamotte, qui, en tant que psychiatre et médecin légiste, me semble-t-il, pourra sans doute réagir à cette question. Je terminerai par une troisième question, qui est plus anthropologique ici, à propos de ce déplacement, si vous voulez, donc à nouveau de cette évolution du modèle adoptif en tant que tel, qui est susceptible peut-être de devenir le modèle majeur, en quelque sorte, de l'acquisition de l'enfant, excusez-moi du terme, à mettre entre guillemets, eh bien, c'est, si vous voulez, donc la substitution d'un rapport contractuel au rapport du don. Je me situerai davantage ici dans une approche philosophique. Le propre de la parenté, me semble-t-il, et depuis longtemps, est de donner, et de donner beaucoup. Il y a certainement parmi vous quelques parents qui ont des souvenirs de nuits blanches, etc. Au fond, le propre de la parenté, eh bien, c'est de donner beaucoup à ceux que l'on n'a pas choisis, sans esprit de retour, et parfois donc jusqu'au sacrifice. Qui sait de ce point de vue-là, d'ailleurs, si le devenir homme n'est pas à ce prix ? C'est-à-dire qu'au fond, eh bien, dans ce don sans esprit de retour, dans ce don non calculé des parents, il n'y a pas finalement donc l'origine même de l'humanisation de l'enfant et la façon pour lui, en quelque sorte, de puiser l'essentiel de l'humain et peut-être ce qu'il y a d'essentiel sur le plan humain, c'est-à-dire le don dans, en l'occurrence, cette expérimentation parentale. Qui sait si la qualité humaine ne puise pas à cette source ? Si, en l'occurrence, le modèle adoptif va vraiment vers, je dirais, ce que j'appelais tout à l'heure, donc le modèle contractuel, vers un rapport davantage contractuel, eh bien, il n'est pas certain que cette relation du don, qui est originaire dans la parenté, soit maintenu à ce titre-là. Parce que le propre, justement, d'une relation contractuelle, c'est d'être limité, c'est-à-dire de correspondre à un certain nombre d'engagements, mais d'engagements qui sont calibrés, en quelque sorte, en fonction du contrat passé. Pour terminer, parce que mon intervention a suffisamment duré, je voudrais évoquer de ce point de vue-là, à propos justement du don, la figure magnifique, et parce que je parlais ici plutôt du point de vue philosophique, la figure magnifique que Albert Camus évoque dans son dernier roman posthume Le Premier Homme, de sa mère, qui, vous le savez sans doute, puisqu'il était orphelin, donc l'a éduqué dans un milieu de misère. Sa mère donc était illettrée, était lavandière, etc. Et il a une image dans ce roman qui est vraiment prodigieuse pour évoquer justement le don, lui qui a reçu le prix Nobel de littérature. Voilà ce qu'il dit pour parler de sa mère. « L'âne aveugle » qui patiemment, pendant des années, tourne autour de la noria, endurant les coups, la nature féroce, le soleil, les mouches, endurant encore, et de cette lente avancée en rond, apparemment stérile, monotone, douloureuse, les eaux jaillissent inlassablement. Donc il y a cette image tout à fait impressionnante, donc de Camus qui, donc le grand écrivain que l'on connaît, dont les eaux jaillissent inlassablement, eh bien rapporte cette origine des eaux donc à sa mère, qu'il compare donc à l'âne de la noria, qui effectivement a eu cette vie. Il le raconte dans ce roman dont je vous conseille donc la lecture, puisqu'il y parle en particulier de sa mère, donc une vie de sacrifice donc au profit de ses fils. Voilà, je m'arrête là. Je donne la parole donc maintenant à Catherine Valenti, qui va vous proposer une approche davantage juridique que la mienne.
Merci bien. Voilà, je pense que ça ira comme ça. Bon. J'ai retenu du propos de Marc Gaucherand qu'il nous a posé trois questions. Et que plus particulièrement, il m'a posé la première question, dont il faut que je vous confesse immédiatement que je l'ai déjà oubliée, m'étant aussi préoccupée des deux questions suivantes. Donc je ne doute pas qu'il me la reposera ensuite, même si j'ai retenu de cette première question qu'elle posait la place de l'enfant par rapport à la notion de l'intérêt supérieur de l'enfant. Effectivement, l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est une notion que nous, juristes, nous connaissons bien, qui doit toujours être au centre de toutes les décisions qui sont prises concernant les enfants. Toutes les décisions concernant les enfants doivent respecter l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est d'ailleurs la Convention internationale des droits de l'enfant qui nous le rappelle. Alors, plus particulièrement sur l'adoption. Le juriste ne trouvera aucune définition de l'adoption dans le Code civil. Et il sera donc contraint de s'en remettre à d'autres, aux psychiatres, aux philosophes, pour qu'on nous donne une définition de l'adoption. Il n'y a pas de définition de l'adoption dans le Code civil. Dans le Code civil, nous trouvons un titre 8, intitulé « De la filiation adoptive ». Et ce titre 8 intervient juste après le titre 7, qui lui est intitulé « De la filiation ». Comme si l'on faisait d'emblée une différence entre la filiation adoptive et la filiation. Et la manière dont les chapitres et les titres sont agencés dans le Code civil dit beaucoup quand même de la manière dont le législateur a voulu concevoir l'organisation de toutes ces matières et de la manière dont il les a imbriquées les unes dans les autres. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, un enfant adoptif a parfaitement les mêmes droits qu'un enfant biologique, légitime, ou que les anciens enfants naturels et adultérins qui n'existent plus. Et pour autant, nous avons un titre spécifique concernant la filiation adoptive. Preuve que quand même, ça répond à des difficultés tout à fait particulières. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ces deux titres, le titre 7 de la filiation et le titre 8 de la filiation adoptive, sont immédiatement suivis d'un titre qui donc les concerne tous les deux et qui est le titre qui s'appelle « De l'autorité parentale ». Donc on voit que ce titre de l'autorité parentale quand même rejoint le titre de la filiation et ensuite de la filiation adoptive. Alors l'adoption consacre-t-elle en droit, pour ce qui est des règles juridiques, un droit à l'enfant? Ce qui signifierait que l'enfant viendrait combler un manque, un défaut. Ce qui signifierait, par exemple, qu'on ne pourrait donc adopter que si on n'avait pas d'enfant. À ce moment-là, on pourrait dire que les gens qui n'ont pas d'enfant auraient droit d'adopter un enfant parce que ça viendrait combler un manque, un défaut, quelque chose qu'ils n'auraient pas. Or, c'est inexact. Les enfants, les parents qui ont déjà des enfants et des enfants biologiques qu'ils ont conçus ont tout à fait le droit d'adopter. Ce qui, pour ce qui me concerne, semble démontrer que l'adoption ne consacre donc pas un droit à l'enfant, mais doit être au contraire appréhendée comme un système de protection de l'enfant sans famille. Ça permet de lui donner une famille de remplacement. Et l'adoption jusqu'à une date récente, jusqu'à le débat dont Marc Gaucheran s'est fait l'écho il y a un instant, c'était ça, c'était uniquement ça. C'était de donner à l'enfant sans famille une famille de remplacement. Chaque pays peut avoir sa propre conception de la filiation adoptive. Et la filiation adoptive française n'est pas hégémonique. Nos voisins peuvent avoir des règles à peu près similaires, mais pas tout à fait les mêmes. Quand je parle de nos voisins, je parle de nos voisins immédiats, de nos voisins européens. Je ne vais pas chercher en Asie ou en Amérique du Sud des règles dont on pourrait considérer qu'elles sont différentes des nôtres parce que ce n'est pas du tout les mêmes civilisations. Je parle de nos voisins européens. On n'a pas forcément tous les mêmes règles. Alors, quelles sont les règles de l'adoption en France ? Ces règles concernent d'abord l'enfant adoptable, l'adopté. Qui est l'adopté ? Alors, on a un article dans le Code civil qui est l'article 347 qui nous rappelle que peuvent être adoptés d'abord les enfants pour lesquels les pères et mères ont valablement consenti à l'adoption. Donc ça, c'est la première règle, qui est une règle extrêmement importante qu'on retrouve ensuite pour tous les problèmes d'adoption internationale, c'est les pères et mères ont consenti à l'adoption. Deuxièmement, les pupilles de l'État, hein, les enfants qui ont été placés, voilà, les pupilles de l'État. Et troisièmement, les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues à l'article 350 du Code civil. Je m'arrête un instant là-dessus parce que c'est intéressant dans le cadre de notre débat. L'article 350 du Code civil, c'est l'article dont vous avez tous entendu parler, qui exige, pour que l'enfant devienne adoptable, que soit rapportée la preuve d'un désintérêt manifeste de ses parents. Désintérêt qui doit avoir duré plus d'un an. Vous savez, c'est tous les cas de figure dont on entend parler, avec ce délai d'un an interrompu, parce que papa et maman ont envoyé une carte postale. Ça a beaucoup évolué, hein, mais bon, ce désintérêt. Le désintérêt, la Cour de cassation nous a toujours dit qu'il devait être volontaire, désintérêt volontaire. Et c'est compliqué d'arriver à rapporter la preuve d'un désintérêt parental volontaire. C'est la raison pour laquelle il y a eu une loi qui a été votée, mais malheureusement uniquement à l'Assemblée nationale. Donc elle n'est pas votée, hein. C'est un projet de loi qui a été adopté en Assemblée nationale. C'est comme ça que l'on dit quand on est juriste. Et l'Assemblée nationale a adopté le 1er mars 2012, en première lecture, une proposition de loi d'un député qui s'appelle Michel Tabarot, qui est très investi dans tout ce qui concerne l'adoption, et qui dit, voilà, on ne va plus parler de désintérêt manifeste, mais de délaissement. Et le délaissement, lui, fait appel à une carence objective, sans référence au comportement des parents. Et de ce que j'ai pu lire à propos de cette proposition de loi Michel Tabarot, c'est quelque chose qui, effectivement, serait très apprécié par les magistrats et par tous les juristes qui s'intéressent au problème de l'adoption. Alors, voilà pour l'adopter, sauf qu'il faut quand même que je rajoute ici que l'adopter en France n'est pas uniquement un mineur, que l'adopter en France peut également être un majeur. Une particularité du système français. Nos voisins anglais, par exemple, ne conçoivent pas qu'on puisse adopter un majeur. En France, c'est très fréquent que vous ayez des adultes majeurs qui soient adoptés. Sans limite d'âge, peut être adopté, sans limite d'âge. Sauf qu'il faut, bon, après je reviendrai sur une limite d'âge, une autre limite d'âge. Mais disons qu'on peut être adopté à 50 ans, à 40 ans, ça ne pose pas du tout de difficulté pour un juriste. Et nous le voyons, hein, nous l'avons vu dans certains dossiers. Donc voilà les premières questions que je voulais aborder rapidement sur les particularités du système français concernant la définition de l'adopté. Deuxième particularité dans notre système. Notre système français fait coexister deux systèmes. Une adoption plénière, qui est d'ailleurs la première qui est traitée dans le Code civil, et par le prononcé de cette adoption plénière, qui est irrévocable, l'enfant cesse d'appartenir à sa famille d'origine et intègre complètement sa nouvelle famille adoptive comme s'il y était né. On refait d'ailleurs son acte de naissance. L'enfant ne porte plus le nom de sa famille d'origine, il n'est plus tenu à aucune obligation vis-à-vis de ses parents par le sang, il perd tous ses droits successoraux dans la famille d'origine, c'est complètement coupé. C'est ce qui se passe très souvent avec les adoptions internationales. Cette adoption plénière n'est possible que pour des enfants de moins de 15 ans, donc pour des mineurs. Donc pas d'adoption plénière pour des majeurs. Adoption plénière, enfant de moins de 15 ans, et là, le consentement, la notion de consentement dont Marc Gaucheran parlait tout à l'heure est très importante, puisque cet enfant devra donner son consentement, alors même qu'il est mineur, s'il a plus de 13 ans. Pourquoi 13 ans ? C'est une notion qu'on retrouve dans notre droit, 13 ans. 13 ans, on considère que l'enfant mineur devra consentir à son adoption. Deuxième système qui coexiste, l'adoption simple, qui ne comporte pas de rupture avec la famille d'origine, et qui peut donc aussi bien concerner des enfants mineurs que des majeurs. Dans cette hypothèse, la filiation d'origine continue d'apparaître sur l'acte de naissance, et la mention de l'adoption est portée en marge de l'acte de naissance de l'adopté. Donc par ce système, on arrive à cette solution extraordinaire que l'adopté, l'enfant, a deux pères et deux mères. Ses parents biologiques, ses parents adoptifs. Même si, pour des considérations pragmatiques, pratiques, seuls les parents adoptifs sont investis de l'autorité parentale. C'est déjà compliqué d'être à deux pour décider, donc on ne sera pas à quatre. C'est juste les parents adoptifs qui ont les droits d'autorité parentale, les parents biologiques en sont dessaisis. Donc voilà pour nos deux systèmes qui coexistent et qui font aussi une des particularités du système français. Donc dans l'adoption simple, les droits successoraux sont maintenus dans les deux branches, l'enfant a les deux noms, et même quand il est majeur, d'ailleurs la Cour de cassation y veille, hein, ce qui est bien les deux noms, c'est un problème récurrent quand on a des dossiers d'adoption, les confrères qui sont ici dans la salle le savent sans doute, pour ces problèmes de noms, quand on a en particulier des majeurs qui font l'objet d'une adoption simple et qui nous disent « bon, je garde mon nom, je veux bien être adopté, mais je garde mon nom, je ne veux pas tout d'un coup changer de nom ». Elle dit « ben non, il faudrait que vous portiez les deux noms ». Ils disent « enfin, on ne va pas porter les deux noms », ben si, c'est obligatoire, la Cour de cassation l'exige. Et cette adoption simple, à terme, en particulier pour des mineurs, surtout, enfin uniquement pour des mineurs, peut être transférée en adoption plénière. Troisième singularité de notre système français. Qui sont les adoptants ? Qui sont les adoptants ? L'adoptant peut d'abord être une personne seule. Ça peut être une personne seule, et je dis bien une personne seule, je ne dis pas forcément une personne célibataire. Quelqu'un qui est marié peut faire un choix et faire une adoption singulière et pas une adoption de couple. Donc ça peut être une personne seule. On lui met simplement une condition d'âge. Alors là, allez savoir, en France, on est majeur à 18 ans. À 18 ans, on peut tout faire. Des enfants, on peut en faire à partir du moment où on est pubère. Mais pour adopter, il faut avoir 28 ans. Alors pourquoi 28 ans ? Je ne sais pas. Peut-être que certains ont une explication. C'est 28 ans.
C'est la fin de l'adolescence.
C'est le psychiatre qui parle, donc ça doit être ça. L'adoption, donc, qu'elle soit plénière ou simple, peut être faite par une personne seule et qui peut donc être célibataire. Quid de l'adoption par un célibataire homosexuel ? La question s'est posée. Et plusieurs décisions ont été rendues en France, certaines annulant le refus d'agrément d'un candidat à l'adoption au motif que le rapport social, alors j'ai copié le rapport social s'interrogeait sur la compatibilité d'un projet d'adoption avec des particularités constituées par le fait d'être un homme célibataire homosexuel. C'était en 2005. D'autres, au contraire, validaient le refus d'agrément au motif que il était justifié par le fait que le demandeur, eu égard à ses conditions de vie, ne justifiait pas de garanties suffisantes sur les plans familial, éducatif et psychologique pour accueillir un enfant adopté. Voilà. Il y avait un petit peu de tout. Alors, c'est évidemment allé devant la CEDH et nous avons une première décision qui condamnait la France de la CEDH. Enfin non, là, la France n'était pas condamnée, c'était en 2002, un arrêt fret contre France. La CEDH avait considéré que, après tout, chacun faisait comme il voulait et qu'il convenait de laisser aux autorités de chaque État une marge d'appréciation et que chaque État pouvait faire ce qu'il voulait et que la différence de traitement faite par la France entre un homosexuel et un hétérosexuel n'était pas discriminatoire. On était en 2002. Ça avance à toute allure. Puisqu'en 2008, la CEDH est revenue sur cette position et là, la France a été condamnée dans un arrêt EB contre France. La CEDH a considéré que dès lors que le droit interne français ouvre le droit à l'adoption par une personne célibataire, un refus d'agrément à l'adoption fondé sur la base de l'orientation sexuelle constitue une discrimination condamnée par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Donc depuis cet arrêt de la CEDH de 2008, on ne peut plus, les services sociaux ne peuvent plus refuser un agrément fondé sur des motifs liés à l'orientation sexuelle du candidat à l'adoption. Donc les célibataires homosexuels peuvent adopter en France. C'est parfaitement légal, parfaitement possible, et quelles que soient les réformes qui seront ou pas votées, c'est le cas à l'heure actuelle. Autre possibilité d'adopter en France, donc je viens de vous le dire, on peut adopter seul, qu'on soit célibataire ou pas, homosexuel ou pas, et sinon, l'autre possibilité, c'est l'adoption faite par un couple. C'est les deux seuls cas où on peut adopter, soit seul, soit en couple. Mais attention, en France, l'adoption par un couple est réservée aux couples mariés et exclusivement mariés. Alors, ce n'est pas parce qu'ils sont mariés que les conditions sont assouplies. Hein. Il faut quand même qu'ils soient mariés depuis au moins 2 ans de mariage ou qu'ils aient tous les deux, plus de 28 ans, toujours. Mais attention, pas d'adoption en France pour des concubins, ni pour des partenaires unis par un pax, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels. L'adoption en France par un couple, c'est par un couple marié. Alors, il y a une adoption dont il faut bien parler, parce qu'elle a quand même les faveurs du législateur et puis les faveurs des familles. À l'heure actuelle, celle dont je parlais tout à l'heure à Marc Cochran, en vous attendant, c'est l'adoption de l'enfant de son conjoint. Le législateur a assoupli ces règles. Quand on adopte l'enfant de son conjoint, on n'a pas besoin d'agrément, par exemple, des services sociaux. La condition d'âge de l'adoptant n'est plus exigée. Il n'est même pas nécessaire que les époux aient 2 ans de mariage. Ça peut être fait de manière assez souple et assez rapide. Donc on voit bien le cas de figure dont il s'agit. Un couple a un enfant, ce couple est dissous. Prenons l'hypothèse où il est dissous par le décès, première hypothèse. La mère, on va faire mourir le père. La mère se retrouve seule avec cet enfant, jeune, se remarie, crée avec son nouveau mari une famille dans laquelle est élevé l'enfant qu'elle avait eu de sa première union. Ce mari élève cet enfant comme si c'était le sien, et souvent d'ailleurs avec d'autres frères et sœurs issus ensuite de cette nouvelle union. Et fort logiquement arrive le moment où il dit « Il faut que le droit rejoigne le fait, je vais donc adopter cet enfant. Je vais adopter l'enfant de mon conjoint. » Vous retiendrez donc que c'est l'adoption faite par une personne seule, c'est pas l'adoption faite par un couple, hein, bien sûr, adoption faite par une personne seule. Il adopte l'enfant de son épouse. Et dans cette hypothèse, je vous ai dit tout à l'heure que quand on adoptait, on prenait l'autorité parentale au parent biologique. On lui prend l'autorité parentale, sauf quand précisément on adopte l'enfant de son conjoint. Alors à ce moment-là, l'autorité parentale reste partagée. Et le conjoint reste investi de ses droits d'autorité parentale qui sont partagés avec le parent adoptif. C'est tout à fait spécifique. C'est notre système français qui marche d'ailleurs très bien, puisqu'on a quand même un certain nombre de dossiers où on fait ce type d'adoption, et qui donc s'applique au cas où les mariages sont dissous par décès, mais également au cas où les mariages sont dissous par divorce. Nous avons nombre d'hypothèses où le mari que j'ai fait mourir tout à l'heure, en réalité, divorce, s'en va, ne s'occupe pas des enfants, ne paye pas de pension, quelquefois même, ne les voit jamais, se fait d'ailleurs retirer l'autorité parentale, et à ce moment-là, le même mari aimant ayant épousé l'épouse divorcée, adoptera. Alors là, après, se pose la question du consentement. Il faudra quand même aller chercher le consentement ou pas, ou passer outre, car les juges peuvent passer outre le refus de consentement. Mais on sera dans la même situation, c'est-à-dire que l'enfant sera adopté par le père de sa mère. Ça marche aussi, évidemment, s'il est adopté par la mère de son père, non, par la femme de son père. Vous y retrouvez, c'est bien. Alors, Là où ça nous pose une question avec les couples homosexuels, c'est que, et c'est l'origine du débat actuel, hein, je viens de vous le dire, on peut adopter quand on est célibataire, très bien, je vous ai dit célibataire homosexuel, ça ne pose pas de problème, on peut adopter quand on est un couple, mais uniquement si on est un couple marié, et on peut adopter l'enfant de son conjoint, mais, si on est marié. Et c'est pas possible autrement. Alors il y a eu une affaire récente qui a été portée à la CEDH et on a beaucoup cru que la France allait être condamnée. Et elle ne l'a pas été. Et c'est une affaire qui aujourd'hui est au cœur du débat sur le mariage pour tous et l'adoption. C'est l'affaire Gaz-Dubois. Alors, l'affaire Gaz-Dubois, elle a été très médiatisée par notre consoeur Caroline Mécari, qui était l'avocat de ce couple, et qui l'a abondamment raconté, y compris à Lyon, où elle était venue nous en parler. Donc, Madame Gaz et Madame Dubois sont deux femmes paxées en France. L'une des femmes, je ne sais plus laquelle, a eu une enfant avec une PMA en Belgique. Cet enfant qu'elle a eu, c'est une petite fille, n'avait donc, et n'a donc toujours, juridiquement, qu'un seul parent, qui exerce seule l'autorité parentale. Et la compagne de sa mère n'a aucun droit, ni aucun devoir d'ailleurs, sur cet enfant. La compagne en question a donc demandé à adopter cette petite fille. Et la mère y a consenti. La mère, évidemment, y a consenti. Il s'agissait d'une demande d'adoption simple, qui normalement se rajoutait donc à la filiation d'origine qui était maintenue. Sauf que lorsque l'adoption est sollicitée par un couple non marié, le parent biologique doit renoncer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à son autorité parentale, qui est transférée à l'adoptant. C'est la règle posée par l'article 365 du Code civil. 365. Il n'y a que dans les couples mariés, encore une fois, que le parent biologique n'a pas à renoncer à son autorité parentale qu'il partage alors avec le parent adoptif. Donc, l'enfant qui fait l'objet d'une adoption simple, à ce moment-là, au sein d'un couple marié, a bien deux parents juridiquement. Ce n'est pas le cas, ce n'était pas le cas dans l'affaire de Mme Gaz et Mme Dubois. Donc, elles sont allées présenter leur requête aux fins d'adoption, qui a été rejetée. Elles ont fait un recours, cour d'appel, ça a été rejeté. Elles avaient inscrit un pourvoi dont elles se sont désistées parce que finalement, elles sont allées poser la question à la CEDH en demandant, en disant que le traitement qui leur était fait était discriminatoire. Et il y a dans la CEDH, dans la convention, un article qui dit qu'on ne peut pas avoir dans nos législations internes de traitement discriminatoire. Et elles ont dit que c'était discriminatoire. Pourquoi ? Elles ont dit un couple non marié, un couple paxé, hétéro, qui veut faire ce qu'ils ont fait, ce qu'elles ont fait, elles. On pourra, si on leur refuse l'adoption, elles ont une solution. Ils ont une solution, puisque c'est un couple hétérosexuel. Ils ont une solution pour adopter. Quelle est cette solution, s'ils veulent adopter ? Ils se marient. Alors qu'un couple homosexuel n'a pas de solution, puisqu'il ne peut pas se marier. Donc, traitement discriminatoire. Voilà le fondement sur lequel elles ont saisi la CEDH. Et la requête avait été déclarée recevable. Et donc, il y a eu à ce moment-là, c'était l'hiver dernier, un petit émoi, on s'est dit que va décider la CEDH. Mais la CEDH a rendu un arrêt le 15 mars 2012, considérant que l'article 365 ne portait pas atteinte de manière discriminatoire à leur vie familiale, car la solution aurait été exactement la même avec un couple de paxés hétéros. On a dit c'est pas discriminatoire parce qu'on aurait fait pareil avec un couple de paxés hétérosexuels. Elle disait oui, mais le couple paxé hétérosexuel a une solution. C'est autre chose. Autre chose. Mais en attendant, ça aurait été la même solution avec un couple de paxés hétérosexuels. Donc la CEDH a retiré leur, euh, ne leur a pas donné raison. Et cette petite fille n'est toujours pas adoptée par la compagne de sa mère, qui attend de pouvoir épouser sa compagne, voilà, pour pouvoir ensuite adopter. Alors, on a beaucoup de choses à dire. Je voudrais juste, pour en terminer, vous parler de deux autres points en conclusion. D'abord, les risques de détournement d'adoption. C'est des risques qui existent. On a déjà vu, par exemple, et ça a été évidemment sanctionné, l'adoption par un homme marié de sa maîtresse. Tout ça à des fins successorales, hein, parce que les droits, évidemment, successoraux sont moins importants quand c'est sa fille que quand c'est sa maîtresse. L'adoption par un homosexuel de son concubin plus jeune, dans un but successoral, ou d'obtention d'un titre de séjour. L'imagination des plaideurs n'a jamais de limite, hein. L'adoption par l'épouse de l'enfant reconnu par le père dans le cadre d'un schéma qu'on connaît bien avec une mère porteuse, c'est un schéma qui est condamné par la Cour de cassation de manière constante, hein, c'est interdit, hein. GPA est interdite en France, hein, indisponibilité du corps humain. Et d'ailleurs, il y a eu un arrêt de la Cour de cassation de 1999 où la Cour de cassation a reconnu le pouvoir à un juge qui suspectait une convention de mère porteuse d'ordonner un examen des sangs pour prévenir la fraude à l'adoption. C'est absolument extraordinaire, mais ça a été admis dans un arrêt 1999. Alors, le dernier sujet dont je voulais vous parler, c'était très rapidement, on y reviendra dans le cadre des débats, si vous le souhaitez, sur les adoptions internationales, pour vous dire ceci. Les adoptions internationales sont beaucoup réglementées par une convention à laquelle la France a adhéré, qui est la Convention de La Haye. Alors la Convention de La Haye, il y en a plein des conventions de La Haye. Celle-là, c'est celle du 29 mai 1993. La Convention de La Haye pose le principe que quand on veut adopter un enfant d'un pays signataire de la Convention de La Haye, ce pays ne vous donnera un enfant que si cet enfant ne peut pas rester chez lui. C'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Donc ce n'est pas du tout facile d'adopter un enfant dans un pays signataire de la Convention de La Haye. Et il y a de plus en plus de pays signataires de la Convention de La Haye. C'est le premier point. Ce qui fait que l'adoption internationale se rétrécit. Deuxième point, pour ce qui concerne la Convention de La Haye, si vous voulez vous lancer dans une adoption internationale, quelquefois, vous pouvez tenter une démarche individuelle. C'est-à-dire que vous y allez tout seul. Hein, vous demandez votre agrément, puis vous y allez tout seul là-bas. C'est impossible pour les pays signataires de la Convention de La Haye. Vous devez forcément passer soit par un organisme local pour avoir un enfant. Quand c'est un pays signataire de la Convention de La Haye. Et ce qu'il faut aussi voir dans le cadre de l'adoption internationale, et j'en terminerai par là, c'est que ce qui a le plus important pour les tribunaux français, c'est de vérifier que les enfants ont été valablement abandonnés en vue d'une adoption. C'est ça le plus important. C'est que les juridictions françaises vérifient que le consentement qui a été donné dans le pays d'origine est vraiment un consentement à adoption. Et que les parents savaient ce qu'ils faisaient lorsqu'ils ont signé ce consentement à adoption. C'est vraiment ça qui est vérifié pour qu'ensuite l'adoption puisse être transcrite sur les registres de l'état civil en France. Voilà, bon alors on pourra revenir sur toutes ces questions. Je voulais vous donner donc un schéma des règles juridiques. Et puis je passe la parole à voilà. Professeur Lamotte. Hop, et le micro.
Merci. Je suis habitué à ce qu'on annonce qu'on parlera chacun un quart d'heure et que les deux premiers parlent 30 minutes, ce qui n'est pas fait pour me déplaire. Et c'est pour ça que je choisis de parler en dernier, parce que comme ça, il déblaye un peu le terrain. Et ça m'oblige à être un petit peu plus synthétique, parce que moi aussi, je me répandrais sinon, et probablement beaucoup plus qu'une demi-heure. Alors, du point de vue, on va essayer donc rapidement de voir qu'est-ce qu'on peut rajouter par rapport à ces points-là. Bien, j'allais dire à la fois ce qui a déjà été dit, en même temps tout ce qui n'a pas été dit, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que finalement la parentalité vue par le psychiatre ? Et est-ce qu'il y aura une différence fondamentale entre une parenté biologique et une parentalité élective, celle qui est choisie par les adoptants qui revendiquent un enfant et qui l'obtiennent. Alors, je vous citais une petite... D'abord, parce que effectivement, l'homoparentalité est en filigrane derrière l'actualité de la question. Et je pense que je vais déjà un petit peu faire table rase de l'idée que la parentalité soit indissociablement associée au sexe et au choix d'objet sexuel. Je pense que nous avons, outre des constats sur quantité de séries de la possible normalité d'enfants issus de familles homosexuelles, issus même de familles transsexuelles, je m'occupe depuis 40 ans des transsexuels et on pourra peut-être une fois faire quelque chose un peu là-dessus. Et on a par exemple l'expérience de Cochin où ils ont accepté, le premier centre Ségos de Cochin a accepté de faire des fécondations qui sont légitimes, puisqu'une fois qu'un transsexuel a obtenu un changement d'état civil, peu importe qu'il ait été femme avant d'être homme ou homme avant d'être femme, il peut par exemple légitimement contracter mariage et solliciter donc l'aide de la procréation assistée. On a une série que rappelle Colette Chilan qui les a suivis depuis très longtemps, de 40 enfants qui sont tous normaux, en disant qu'elle aimerait bien trouver des couples hétérosexuels où on ait une série de 40 enfants, entre guillemets, normaux, c'est-à-dire ne présentant pas de déséquilibre majeur dans leur vie de relation ou dans leur équipe personnelle. Donc ça fait réfléchir un petit peu, outre le fait qu'il est très probable que l'homoparentalité, c'est beaucoup de bruit pour rien, parce que quand on regarde le nombre de pacs homosexuels, il est de l'ordre de 50 fois plus faible que le nombre d'unions, mariages ou pacs hétérosexuels. Donc il n'est pas du tout sûr qu'on ait l'explosion attendue, mais c'est très révélateur d'un contexte dans lequel nous nous trouvons, qui est celui d'une espèce d'érotisation, si je puis dire, au sens psychiatrique, c'est-à-dire de mise en œuvre d'une charge émotive, affective, sur l'espèce de prétendu droit des minorités, avec l'exaltation en quelque sorte égalitaire, une mièvrerie égalitaire qui consiste à faire que les différences soient en fin de compte niées. Et ça, c'est un des premiers risques sur lesquels on va buter et que je voudrais signaler comme étant les risques de la parentalité en général et pas seulement les risques de l'adoption. L'autre petit exemple que je voulais vous citer qui va un peu dans ce sens, c'est le fait que je m'occupe depuis quelque temps de mon petit-fils qui va fêter ses 7 mois dans quelques jours, tous les mardis matin, parce qu'il attend la place à la crèche et que ce jour-là, il n'a pas de place. Donc, ma fille travaillant, je me dévoue pour m'occuper du petit bébé. Et je dois dire qu'il y avait quelques années que je ne m'en étais pas mêlé de cette façon. Et j'ai trouvé que c'était très, très, très difficile pour un homme de 65 ans, 66 dans quelques jours, d'être confronté à l'interprétation des cris d'un enfant pour savoir si finalement il a faim ou s'il veut être changé ou s'il a sommeil. Et que l'énigme s'était reproduite avec ce bébé, comme j'avais dû la rencontrer, sans doute avec beaucoup moins d'inquiétude, 30 ans ou 40 ans auparavant. Et puis hier, miracle, tout s'est très bien passé, le bébé était compétent et le grand-père compétent, on était en phase. Et je me suis comporté comme une mère vraiment admirable. Et je lui ai pas donné le sein parce que je pouvais pas, mais tout le reste, je l'ai nourri, je l'ai changé comme il fallait, il a dormi quand il fallait, joué quand il fallait, etc. Et je me suis senti, sans aucune ambiguïté, complètement femme, mère. Dans cette attitude qui interroge sur le fait qu'on puisse dissocier la parentalité et non seulement les choix d'objets sexuels, mais la position créative, la position relationnelle dans laquelle on peut se trouver, homme ou femme, et qui, elle, est évidemment radicalement différente, quel que soit ce qu'on nous raconte comme conneries sur la nécessité de la parité ou sur l'équivalence qui pourrait exister entre hommes et femmes dans l'équivalence des devoirs, des attitudes, etc., etc. On peut tous être homme en étant femme, et on peut tous être femme en étant homme, ça dépend du moment avec qui et où. L'autre point sur lequel je voudrais déjà commencer à porter l'attention pour le contexte, on a esquissé le mot avec le nom de la disponibilité de l'État, la non-disponibilité de l'État de la personne, qui est un héritage de notre droit romain, peut-être au départ patrimonial, mais qui en tout cas vise quelque chose. On ne peut pas être à la fois sujet et objet du droit ou sujet et objet du commerce. Et il est clair que les parties du corps, ni le corps lui-même a fortiori, ne sont commercialisables, même si vous trouvez des fois sur Internet, c'est pas dans notre pays, et ça continue à choquer lorsque, ouvertement, on attaque ce principe qui fonde notre relation à notre corps et notre relation à la vie. Mais pourtant, il n'y a pas de jour que ce principe soit battu en brèche, au moins par les revendications, comme Marc Gauchran le disait tout à l'heure, de faire du désir la loi. Et de confondre, comme on le fait de plus en plus souvent, le droit naturel, qui pourrait être ce qui est inhérent à la nature humaine et à la place que chacun peut revendiquer dans la société, mais confondre ce droit naturel avec le droit positif, qui est celui que, justement, dans un cadre législatif, on peut revendiquer par un procès contre autrui. Et vous voyez cette confusion qui va aussi être la confusion entre la liberté et le droit qui s'exerce dans un très vaste espace de tout ce qui touche au corps, aussi bien du point de vue de l'euthanasie que du droit au suicide, entre guillemets, comme si c'était un droit, ou du droit à la conception et à la possession d'enfants. Alors c'est une façon un peu différente d'aborder ce qui vous a été dit sous la différence qu'il y a entre le droit à l'enfant et l'appréciation du droit de l'enfant, mais il y a quelque part l'idée de la propriété. Et la première des conditions pour être justement en position de parent, et celle qui est le plus battue en brèche par les progrès de la science, c'est celle de la grande ambiguïté, peut-être un peu paradoxale, qu'il y a à mettre un enfant au monde, à vouloir en assumer la responsabilité, à vouloir l'éduquer, c'est-à-dire le conduire vers quelque chose, tout en acceptant de n'en être pas propriétaire. Et c'est là où on pourrait dire que le modèle de l'adoption, dont on a vu qu'il était réversible, on est passé de la question de l'engendrement qui a modélisé l'adoption pendant des années et des années, des siècles, à l'idée que c'est l'inverse maintenant, c'est peut-être l'élection-adoption qui devient le modèle pour la conception et pour la parentalité biologique. Et vous pouvez en avoir pour preuve tous les indices qui donnent à penser que l'on puisse choisir l'enfant. On a déjà vu qu'avec la maîtrise de la contraception, je vous rappelle qu'il n'y a pas très longtemps quand même, sur le plan historique, la question de la paternité biologique était complètement aléatoire et ne pouvait pas être régulièrement le fait d'un désir affirmé, au moins d'un désir voulant produire quelque chose de précis. Or, actuellement, vous savez qu'on peut prélever le sang de la mère et y trouver le sang du fœtus dès les toutes premières semaines de la vie, bien avant en tout cas que soit interdit de pratiquer une interruption volontaire de grossesse officielle. Donc vous pouvez d'emblée voir le risque génique que l'on commence à dénoncer, qui pourrait être aussi bien celui de choisir le sexe de l'enfant d'une manière légitime, en quelque sorte. J'avorterai si je constate que le sang de l'enfant que je porte est un sang masculin, mais je peux aussi dire que la gamme de plus en plus large des maladies génétiques que je vais pouvoir dépister sur ces cellules issues du fœtus va me permettre réellement, plus que l'évitement de la mise au monde d'un enfant dont vous savez à quel point depuis l'arrêt Perruche on se pose la question de savoir si il est légitime d'évaluer le prix de sa vie avec le geste qui consiste à interrompre cette grossesse au motif que ce qui attend cet enfant est une maladie génétique grave. Eh bien, l'extension, en quelque sorte, à peut-être demain une quantité d'évaluation génétique sur ce sang cet ADN issu de l'enfant ouvre des possibilités terrifiantes et ouvre l'idée d'une conception biologique qui, elle, serait aussi prévue que l'on a pu la dénoncer chez certains adoptants qui prétendaient justement vouloir, par exemple, un enfant de couleur, pour bien montrer que leur générosité les a poussés à aller en dehors de l'enfant naturellement issu de leur couple. Et à ce propos, vous savez qu'on a pu avoir, on pourrait dire en quelque sorte, que le risque de s'approprier l'enfant apparaîtrait majeur dans cette idée de choix. Vous savez que les sécos refusent, même s'ils apparient quand même les spermes, pour avoir les caractéristiques un peu physiques du père, correspondant vaguement aux caractéristiques du père putatif biologique, du père putatif qui accompagne la femme qui va recevoir la fécondation assistée. On va donner les enfants d'un petit gros à un petit gros et les enfants d'un grand à un grand, peut-être. Mais aux États-Unis, vous pouvez choisir chez les privés du sperme de prix Nobel. Il n'est pas du tout certain que ça vous fera un enfant plus intelligent. Mais il n'empêche que on pourrait imaginer que le choix, cette paternité que l'adoptant revendique, où en principe ils vont, ils sont pas trop maso quand même, parce que ça existe aussi ceux qui voudraient un enfant souffrant à soigner et à aimer, eh bien, vont exiger un enfant compétent, politiquement, socialement correct sur le plan, mais aussi aimable. Aimable au sens étymologique. Mais on peut renverser autant la proposition en disant que cette adoption, opter aller vers l'autre, opter pour un choix donc vers lui, est le modèle de ce qu'il faudrait être dans la paternité biologique pour être dans la vraie parentalité aléatoire, ouverte. Parce que justement, c'est une paternité déclarative. Ou pour une fois, je ne vais pas demander la preuve de la filiation. Au contraire, j'y renonce d'emblée en adoptant. Alors qu'actuellement, une dérive, et qu'encouragent malheureusement les magistrats, est de vouloir donner la preuve de la paternité. Non seulement de la maternité, mais de la paternité. Et des pères sont de plus en plus condamnés parce que on a pris leur ADN et que sur la revendication d'une femme qui leur a volé leur sperme il y a quelques années et qui a demandé donc à ce que le père qui n'avait pas reconnu l'enfant, qui en ignorait quelquefois l'existence, soit amené à en assumer la prise en charge matérielle. Or, saint Augustin nous dit bien « pater incertus ». Le père est incertain et il doit le rester. Le père, c'est celui qui se déclare père. Si le père exige la preuve par l'ADN qu'il est bien le géniteur, on n'est pas dans une position de parentalité. On reste dans une indifférenciation entre le père et la mère qui est aussi importante sur la possibilité de développement de l'enfant que la différence des sexes. Il est aussi grave de faire en sorte que les deux parents exige la preuve d'être les géniteurs que les deux parents soient de même sexe. Les risques sont aussi grands. Le risque de posséder l'enfant et de lui assigner sa place est très grand, aussi bien sous l'angle de la paternalité, la parentalité biologique, que sous l'angle de la parentalité adoptante. Et c'est là que peut-être peut se situer pour le psychiatre la ligne de partage des eaux, je ne dirais pas entre le bon et le mauvais, ou entre le normal et le pathologique, mais entre le normalement risqué et le très risqué. Voilà. Évidemment, mettre un enfant au monde, c'est prendre le risque de sa vie, c'est prendre le risque de ce qu'il puisse nous décevoir, nous blesser, de ce qu'il puisse invalider tous les projets qu'on fera pour lui. C'est de prendre le risque aussi que, formidablement, il nous comble et soit bien au-delà de tout ce qu'on attendait de lui. Mais cette question est ouverte. Et si je prétends affirmer dès le départ que l'enfant ne doit pas me surprendre par sa naissance, qu'il doit être conforme à ce que j'attends. Qu'en grandissant, il doit être conforme aussi au projet que je fais pour lui. Je lui fais subir une violence qui est insupportable et qui, psychose ou pas, on n'est pas certain que ça décompense de toute façon dans une maladie mentale, psychose ou pas, constitue un abus de la part des parents et pour tout dire un abus pervers où on retrouve la définition de la perversion, c'est-à-dire prendre son désir pour la loi, prendre son désir pour la réalité. Un enfant à naître doit malheureusement aussi subir la violence du désir de ses parents. Imaginons que, justement, pour ouvrir cette question, les parents n'aient pas de volonté précise pour lui et disent, ben, après tout, il grandit tout seul et on verra bien ce qui arrive. Nous, on le nourrit, mais on ne l'éduque pas. Eh bien, cette prétendue absence de violence que nous retrouvons sous des formes diverses dans certaines idéologies éducatives qui ont malheureusement amené des déformations terribles après mai 68, eh bien, on va au contraire laisser l'enfant en friche. Et nous savons actuellement, par la neuropsychologie et la neuroimagerie et l'étude précise de le développement synaptique, qu'un enfant naît avec des connexions neuronales en nombre très, très supérieur à ce qu'il va garder au fil de son développement. Et que si on ne fait pas ce que les Anglais appellent le pruning, c'est-à-dire tailler en fait, si on ne taille pas par la violence éducative, si on ne taille pas par la restriction sur l'autonomie de l'enfant, si on ne taille pas en gros par tout simplement ce qu'on appelle l'éducation, eh bien l'enfant sauvage va perdre toute possibilité d'utiliser cette myriade de connexions neuronales et va au contraire être dans un marasme sur le plan de ses capacités de contact et dans une incapacité lui-même d'être en position créative. Donc vous voyez que toute éducation est violence, tout projet de parent est violent et que le risque peut-être avec l'enfant adopté pour les adoptants est d'avoir un imaginaire sur ce que devrait être cet enfant, sur ce qu'on attend de lui et sur la façon même, tout simplement, dont on se le représente. Comment est-ce que je me représente cet enfant ? Eh bien, le risque est sans doute un peu plus grand pour les enfants adoptés que pour les enfants biologiques, mais il n'est pas de nature différente. On peut être très mauvais parent biologique et on peut être très bon parent adoptant si on contrevient, hein, ou on ne contrevient pas à ce principe de surprise, qui est que l'enfant puisse être différent de ce qu'on imagine et de ce qu'on attend. Ce qui nous donne d'ailleurs une petite idée de ce que pourrait être dans un processus d'agrément l'attitude de la commission de la DAS si on voyait arriver quelqu'un qui dise « Je veux adopter en tant qu'hétérosexuel. » Imaginez le gars en petit Marcel avec les gros biscottos qui fait de l'un, qui a une bimbo à côté et qui viennent tous les deux. Nous, on est un petit couple, attention la baise, vous allez voir ce qu'on va vous faire. Donnez-nous un enfant parce qu'on ne peut pas en avoir un. On va en faire un de ces petits machos qui va... vous aurez intérêt à planquer les poules quand on va lâcher le coq. Est-ce que vous considéreriez en tant que responsable de la commission d'agrément, que ce couple est dans une parentalité possible? Oui ou non? Pourquoi? Pourquoi est-ce que cette hétérosexualité militante est gênante? Exactement de la même façon que est gênant le fait de vouloir adopter en tant qu'homosexuel. Si j'adopte, si je suis parent, c'est d'abord pour protéger l'enfant de ce qu'on appelle l'excitation traumatique, l'excitation qu'il n'a pas les moyens de maîtriser avec ses petits moyens limités, initiaux, de maîtrise sur le monde extérieur. Et on le protège d'abord de la sexualité adulte. Lorsque Freud parle de la scène primitive, ce que l'enfant imagine de la sexualité des parents, il nous dit bien que c'est ce qu'il imagine parce qu'il est derrière la porte et non pas parce qu'il est dans la chambre au pied du lit à assister au coït qui n'est pas la scène primitive. Le coït des parents, c'est la réalité de leur union. Et bien entendu, seuls des parents pervers associent l'enfant à la vision de leur union. Les autres l'en protègent. Eh bien, lorsque vous êtes dans une union homosexuelle et que vous en faites un des éléments de définition de votre union et de la revendication du désir d'enfant, le risque est beaucoup plus fort, évidemment, puisque votre sexualité sort de l'intime pour aller vers le public. Le risque est évidemment beaucoup plus grand de traumatiser l'enfant au sens fort et de lui faire d'emblée court-circuiter son enfance, c'est-à-dire court-circuiter ce qu'il doit imaginer, ce dont il doit avoir peur, ce dont il doit peut-être aussi se réjouir pour le futur, là où il doit se tromper. On risque de court-circuiter tout ça en le soumettant trop tôt à une vérité qu'il n'a pas les moyens de maîtriser, à une excitation qu'il n'a pas les moyens de résoudre, comme peut les résoudre un adolescent, par exemple. Un adolescent qui peut entendre ses parents avoir un rapport à la pièce à côté, eh bien, où il se masturbe, ou bien où il va jouer ailleurs, il se protège tout seul. Il n'a pas besoin qu'on le protège de l'excitation, s'il la surprend. Il a en tout cas la possibilité de se décider. Un petit enfant n'a pas la possibilité de se décider. Et si c'est le sujet pertinent qui est au centre de la parentalité, il est évident qu'à ce moment-là, on est dans un très grand risque de perversion. L'autre point, c'est celui, je reviens sur la question de l'appropriation. Il est évident que lorsqu'on avait, comme Montaigne le disait, la fécondité naturelle, j'ai perdu quelques petits enfants en bas âge, il était beaucoup plus facile de ne pas être propriétaire des enfants. Alors qu'actuellement, lorsqu'on a à peu près la certitude que les deux qu'on met au monde arriveront à l'âge adulte, sauf si on vit le drame de la maladie qui vient nous l'enlever, mais enfin, on a quand même presque systématiquement la certitude de conduire ces deux enfants vers l'âge adulte et donc la tentation d'exiger d'eux soit qu'ils nous redupliquent, qu'ils soient d'autres nous-mêmes, soit au contraire qu'ils réalisent tout ce que nous n'avons pas pu faire, ce qui serait une façon soi-disant de leur accorder leur autonomie, mais en réalité de la censurer très fort. Le risque est très fort. D'où l'exaltation de plusieurs choses. L'exaltation de l'enfance en soi, complètement mièvre. On est tous dans le complexe de Peter Pan quand on voit maintenant le message triste des adultes qui, en gros, non seulement ne disent pas à l'enfant « Certes, c'est merveilleux ce que tu vis, mais le mieux, c'est encore quand tu seras toi-même parent et adulte. » Et on dit « Profites-en bien parce que ce qui t'attend, c'est glauque. C'est l'horreur de la vie adulte. » Là, il y a quelque chose qui est un truc terrible. Et cette mièvrerie de l'exaltation de l'enfance, je vais m'arrêter pour ne pas trop la décliner et rendre un peu la parole à la discussion, vous la trouvez aussi, de manière tout exemplaire, dans le racisme anti-pédophile qui a pris des proportions totalement délirantes avec des juridictions d'exception et avec une stigmatisation morale du criminel que l'on ne trouve dans aucun autre crime. Si vous torturez une femme sous prétexte que vous l'aimez et qu'elle prétend se refuser à vous, vous pouvez lui arracher les ongles et tout ce que je ne donnerai pas de détails. Vous n'encourrez pas l'opprobre et la condamnation aussi forte que celle du pédophile qui, pourtant, a quelque part été aussi un enfant qui n'a pas eu d'enfance et qui peut se tromper de tendresse en y mêlant la sexualité de façon abusive. Notre représentation commode du monstre comme étant celui qui ose faire ce contre quoi nous luttons. Nous luttons tous pour ne pas nous approprier nos enfants, précieux. Et celui qui a le culot de dire « moi, j'en fais ce que je veux », effectivement, il deviendra d'autant plus le sous-homme que par ailleurs, on aura rétabli une forme morale de péché par la pensée en interdisant toute pensée raciste. Il est totalement interdit d'avoir peur de l'autre. On pourrait développer ça encore plus longtemps, mais enfin, on va s'arrêter un peu là-dessus. Il est interdit de non seulement avoir une attitude raciste, mais tout ce qui tourne autour de « touche-moi à mon, touche pas à mon pote » et la suite, c'est bien quand même l'idée que c'est la pensée même qui doit être censurée. Or, le discours normal, ça n'est pas « je ne suis pas raciste, mais vous ne m'empêcherez pas de penser que, etc. etc. » C'est non, je suis raciste parce que comme tout le monde, j'ai peur quand quelqu'un est trop proche ou au contraire trop différent de moi, du risque que mon identité soit menacée. Et je m'efforce que malgré ce préjugé, mon attitude reste ouverte à l'autre. Eh bien, je pense, je vais m'arrêter là, en disant simplement que cet enfant précieux comporte à la fois beaucoup d'avantages et à la fois beaucoup de risques d'être défaillant dans la parentalité qui risquerait d'être réduite justement à un rôle éducatif peut-être enfermant l'enfant dans l'imaginaire ou à un rôle propriétaire de l'enfant sommé d'être ce qu'on attend de lui.